Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Cécile, coach certifiée et fondatrice de Réquiliance. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec Un pour tous, tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partages, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. Bonjour Claudia, bienvenue sur Un pour tous, tous coachés. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur l'épisode du mois de février 2024 pour parler inclusion et diversité, puisque c'est le thème de la matinale qu'on a décidé de mettre en place et tu as très gentiment accepté d'animer la matinale qui aura eu lieu, puisque l'épisode va sortir juste après, pour pouvoir mettre en avant ces sujets hyper importants en entreprise auxquels je suis hyper attachée, mais je sais que toi aussi tu es plus qu'attachée et convaincue. On se connaît depuis, allez, moins d'un an, je crois que c'est ça à peu près, on a dû démarrer avec Bouge ta boîte l'année dernière, ça doit faire une petite année.
Printemps dernier, je pense.
Allez, on va bientôt faire un an de connaissance. Trop bien. Tu brignerottes depuis peu et en fait, l'idée c'était de développer ton réseau lyonnais et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Exactement.
Avec Bouge ta boîte et puis je pense qu'il y a eu un joli coup de cœur réciproque des deux côtés et on s'est dit que ça serait sympa de pouvoir mutualiser nos compétences et connaissances RH. Donc parcours RH au départ, on s'est rendu compte qu'on avait des contacts aussi en commun et puis plus ça avance et plus on se dit qu'il y a des projets à mettre en place. Voilà sur la présentation très rapide que je peux faire de nous, de notre rencontre. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose en plus sur ta présentation, parce que j'ai été hyper rapide, les RH, la diversité, l'inclusion, mais il y a peut-être plein d'autres choses à dire sur toi qui semblent importantes.
Déjà, merci beaucoup de m'accueillir de ce podcast, cœur-cœur avec les doigts, vous pouvez pas voir, mais on est en train de
faire... On les fait toutes les deux.
On fait cœur avec les doigts. Et oui, et merci mille fois, parce que je suis arrivée en région lyonnaise il y a un peu plus d'un an, et tu es la personne qui, pour l'instant, m'a le plus ouvert de porte dans le coin,
moi. Waouh.
Donc je suis très contente de t'avoir rencontrée, et je te confirme le coup de cœur mutuel. Voilà. Qui je suis ? Moi, je suis Claudia, je suis née il y a 35 ans en Île-de-France, de parents immigrés portugais. Et c'est pas anodin, c'est quelque chose qui est important à préciser dans ma présentation, notamment quand on parle de diversité et d'inclusion, puisque quand on est enfant d'immigrés, on a le cul entre deux chaises en permanence. Moi, ici, je suis la portugaise, là-bas, je suis la française. Et je suis aussi, au-delà d'être enfant d'immigrés, je suis ce qu'on appelle un transfuge de classe. C'est-à-dire que mon papa est ouvrier, ma maman est femme de ménage, on est à fond dans le stéréotype, hein. Ouvrier dans le bâtiment, mère femme de ménage. Mes grands-parents n'étaient jamais allés à l'école, et moi j'ai fait des études longues, puisque je suis allée à Sciences Po Paris, et j'ai rajouté en plus un master 2 RH, parce que ça suffisait pas.
Ouais, histoire de...
Et donc au-delà d'être enfant d'immigré et d'avoir le cul entre deux chaises, j'ai aussi ce côté... On peut faire partie d'une minorité en permanence, c'est-à-dire quand j'étais à Sciences Po, j'avais pas d'autres enfants, d'ouvriers, femmes de ménage avec moi. Et à l'inverse, dans ma famille, je fais partie d'une toute petite minorité de gens qui ont fait des études longues. Donc en fait, dans les deux sens, j'ai l'impression de faire partie d'une minorité et c'est quelque chose qui est questionnant, qui a été très 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 questionnant quand j'étais ado et jeune adulte évidemment, mais qui ne s'arrête jamais vraiment de l'être, je pense. Même à 35 ans, on continue de cogiter sur sa place, sur son sentiment d'appartenance, où est-ce qu'on est bien, où est-ce qu'on est légitime. Etc, etc. Et en fait, du coup, tout ça, c'est pas étranger, évidemment, à mon orientation et à mon métier actuel. Donc, je suis consultante et formatrice sur les sujets de diversité et d'inclusion. Donc, mon job, c'est d'accompagner les entreprises dans tous leurs projets liés à la non-discrimination, à l'égalité des chances, à la promotion de la diversité et la promotion d'un environnement de travail inclusif. Et on va en parler un peu plus en détail, puisqu'aujourd'hui, on va parler de management inclusif.
Et voilà. Oui. Le sujet qui nous réunit sur le podcast, alors il y avait du choix, on a fait un temps de préparation en amont,
yes,
pour choisir le sujet qui nous semblait le plus adapté. Aujourd'hui, on va parler effectivement management inclusif de manière globale par rapport à la fois à ton activité, l'expérience terrain, et puis qu'est-ce que ça représente pour toi, si on doit parler de management inclusif, parce que c'est à la mode, hein, on va dire entre guillemets, ouais, en RH en ce moment. C'est quoi pour toi, qu'est-ce que tu mets derrière, et quelles sont les notions qui s'y rattachent?
Le management inclusif, on peut dire que c'est l'ensemble des comportements qui contribuent à instituer et cultiver un environnement de travail inclusif. Qu'est-ce que c'est qu'un environnement de travail inclusif ? C'est un environnement où chaque personne, tous les membres d'une équipe, si on se remet dans le contexte pro, se sentent à leur place, se sentent bien dans leur basket, slash escarpins, slash chaussures de sécurité, etc., quels que soient les souliers que vous portez. Et à quoi ça sert ? Bah, c'est juste que quand une personne se sent bien dans une équipe, se sent respectée, se sent acceptée et valorisée dans son unicité et dans son entièreté, alors elle est bien dans sa tête, alors elle reste, alors elle donne le meilleur d'elle-même et elle bosse bien. Donc le management inclusif, c'est faire en sorte d'aligner les planètes pour que les gens donc, soient bien dans leur tête, donc assurer la santé, notamment la santé mentale des gens. Ils ont envie de rester, donc on est sur des enjeux de rétention des gens, et dans le contexte actuel où on cherche du monde, bah, vous avez intérêt déjà à garder ceux qui sont là, surtout s'ils font du bon travail. Et puis on est sur des enjeux de performance, tout simplement. Donc voilà, c'est ça le management inclusif. Et quand on dit management inclusif, c'est vraiment, on met l'accent sur les managers qui ont un rôle particulier à jouer, les pauvres managers à qui on donne toutes les casquettes du monde et toutes les responsabilités du monde, mais voilà, je viens contribuer à leur rajouter une casquette, c'est ce sujet de management inclusif, c'est-à-dire que eux, ils doivent manager leurs équipes de façon inclusive, et on va en parler un peu plus en détail dans un instant, et ils doivent aussi être un peu les gardiens du temple et faire en sorte que dans leur équipe, tout le monde joue le jeu et respecte les principes et le cadre de l'entreprise inclusive. Et recadre les déviances éventuelles, etc. Donc à la fois dans leur propre comportement et dans ce rôle de gardien.
Top, merci pour les précisions, parce que c'est important, comme c'est vraiment un sujet dont on parle beaucoup, je trouve que c'est important de bien délimiter les contours. Concrètement, c'est quoi le management inclusif ?
Donc concrètement, c'est plein de choses dont je pourrais parler pendant 2 heures, mais vu que ce podcast dure, tu m'as dit 30 minutes,
ouais,
40 minutes maximum, je vais essayer d'être concise. Déjà, c'est respecter le principe de non-discrimination, puisque même si aujourd'hui, voilà, c'est à la mode de parler d'inclusion et on a l'impression qu'on est très loin de contraintes légales, bah en fait, il y a la base de la base qui est respecter la loi et ne pas discriminer. Donc ça, c'est une première chose. Donc un manager qui ne discrimine pas, c'est un manager qui connaît la loi et qui fait en sorte de surveiller son propre comportement quand il recrute, quand il promeut, quand il y a du disciplinaire, etc., etc. Je vais pas plus loin, mais c'est la base, c'est important. Ensuite, on est sur le sujet de l'égalité des chances. En entreprise, on est parti d'abord de la non-discrimination, après on est allé sur l'égalité des chances, après on est allé sur la diversité, et maintenant on parle d'inclusion. Mais c'est des briques qui se sont superposées les unes aux autres. Donc l'égalité des chances, c'est avoir conscience que dans son équipe, tout le monde n'a pas les mêmes capacités ou les circonstances de départ. Exemple, vous avez une personne dans votre équipe qui a des problèmes de santé et doit très souvent aller chez le médecin, ou qui s'occupe d'un parent vieillissant, il doit souvent l'accompagner à des rendez-vous médicaux. Bah, un manager inclusif, c'est quelqu'un qui prend cela en compte et qui offre une souplesse dans l'organisation, par exemple, de cette personne-là, parce que on ne traite pas ses collaborateurs et collaboratrices comme des clones avec une règle qui vaut de façon très très rigide pour tous, mais c'est aussi savoir s'adapter en fonction des contraintes de chacun et de chacun. Donc ça, je mets ça dans la case égalité des chances. Et puis la case du dessus, du coup, qui est aujourd'hui l'inclusion, c'est être cultiver un environnement inclusif, et c'est là-dessus que je pourrais parler aussi pendant des heures et des heures, mais je vais donner des exemples très concrets. Un premier exemple de culture d'un environnement inclusif, c'est poser un cadre très clair de respect de toutes les différences et de non-tolérance envers des comportements irrespectueux, des remarques déplacées, ce qu'on appelle notamment les micro-agressions. Ce qu'on appelle les micro-agressions, ça va être les blagues, les remarques, les commentaires qui sont basés sur l'appartenance d'une personne à un groupe, donc son genre, son âge, son origine, son orientation sexuelle, son régime alimentaire, que sais-je. Et donc déjà, avoir un cadre extrêmement clair qui dit « nous dans notre équipe, nous dans notre entreprise, on se respecte et on s'accepte et on collabore avec les différences que l'on a et le caractère unique de chaque personne », c'est hyper hyper important. Donc c'est poser ce cadre et c'est oser recadrer quand il y a des blagues, des commentaires, des remarques. Et bien souvent, les managers, bah, ils n'ont pas envie de passer pour le psychorigide qui fait la discipline et qui n'a pas d'humour. Et donc, bah, ils laissent passer. Sauf que bah, c'est quelque chose qui, déjà quand ça se répète, ça peut devenir du harcèlement. Donc on revient sur du légal. Hein. Et au-delà de ça, ça vient pourrir une ambiance de travail et ça peut créer une vraie souffrance psychologique pour les personnes qui sont la cible de ces remarques. Donc un manager inclusif ou une manager inclusif, parce que je parle au masculin depuis tout à l'heure, ce qui n'est pas très inclusif. Mais évidemment, je veux dire un manager ou une manager inclusive, et quelqu'un qui a aussi le courage de poser ce cadre et de le faire respecter. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, l'organisation d'événements. Quand on est manager, très souvent, on réunit son équipe, peut-être une fois par an pour un séminaire. Bon. Lorsqu'on organise ces événements-là, il faut avoir en tête que on a des personnes très différentes dans son équipe, avec des contraintes perso différentes, avec des capacités physiques différentes, etc., etc. Donc, en termes, premièrement, d'horaire, de lieu, d'accessibilité du lieu, on fait en sorte que ce soit adapté pour tout le monde. Mais aussi en termes de programme, parce que très très souvent, j'entends « je vais faire un super séminaire d'équipe, on va faire de l'escalade ». Super ! Est-ce que t'es sûr que l'escalade, c'est OK pour tout le monde ? Est-ce que dedans, il y a quelqu'un qui a le vertige et qui va pas forcément se sentir très à l'aise pour en parler et puis, il va peut-être se mettre en retrait ? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a un problème de santé ou un handicap invisible dont il n'a pas parlé qui fait qu'il ne peut pas faire de l'escalade mais qui, pareil, va se retrouver dans une situation délicate parce que il va pas pouvoir participer à l'activité mais sans non plus vouloir exprimer ce que c'est ? Ou une femme enceinte en tout début de grossesse qui n'a pas encore annoncé sa grossesse et qui n'a pas envie de l'annoncer tout de suite parce que c'est trop tôt, mais qui n'a pas non plus envie d'en faire de l'escalade. Etc, etc, je pourrais avoir une liste énorme de gens, mais c'est se dire, quand on fait un programme, faire en sorte que ça puisse correspondre à tout le monde. Et c'est pareil pour la nourriture, pour les menus, même si ça, j'ai l'impression que c'est à peu près rentré dans les mœurs, alors qu'il y a 10-15 ans, il y avait quasiment automatiquement de la viande, par exemple, à tous les repas qu'on organisait. Aujourd'hui, on est plus dans une dynamique où on a toujours une option sans viande, ce qui peut convenir aux végétariens, ce qui peut convenir à des personnes d'une certaine confession religieuse qui font qu'ils ne mangent pas tel type de viande, etc. Donc ça, ça commence à rentrer dans les mœurs. Ça, c'est un exemple très concret d'inclusion, en fait. Avoir un programme qui correspond au maximum de monde. Ça, c'était le deuxième exemple. Et le troisième exemple, et c'est le plus important, c'est faire en sorte que chaque personne ait un espace d'expression et soit écoutée et prise au sérieux de la même manière que les autres membres de son équipe. Je m'explique. Aujourd'hui, on sait, dans la vraie vie, qu'autour d'une table de réunion, quand on est le nouveau ou la nouvelle, on est généralement un peu moins écouté que celui qui est là depuis 15 ans. Quand on est l'alternant ou le stagiaire, on est moins écouté que le grand directeur ou la grande directrice. Quand on est une femme, on est moins écouté qu'un homme. Et ça, c'est des choses qui sont pas forcément conscientes ni volontaires, mais qui sont bien réelles et qui font que, même si tout le monde est invité à la réunion, on dit première étape d'inclusion, on a invité tout le monde. Très bien, tout le monde est autour de la table. Mais si, in fine, c'est toujours les mêmes qui ont la parole et qui pèsent dans les décisions, alors est-ce qu'on a vraiment atteint l'inclusion ? Non. Ils étaient présents autour de la table, mais on les a pas écoutés et pris au sérieux de la même manière que les autres. Donc ça, c'est le plus, je pense, délicat, et en même temps, c'est le nerf de la guerre. C'est bien de se dire qu'on recrute de plus en plus de femmes, de jeunes de milieux populaires, de plein de populations différentes, sauf qu'à partir du moment où ils sont là, il faut qu'on les fasse contribuer de la même manière que ceux qui sont là depuis longtemps, ceux dont on ne questionne pas la légitimité. Voilà.
Donc là, ça te permet effectivement de donner des exemples, d'illustrer, de donner des cas concrets. Comment ça se passe, toi, dans ton mode d'animation ? Qu'est-ce que tu proposes ? Comment t'es arrivé à créer ta structure ? Parce que c'est vrai que là, on a parlé de tes propositions, mais peut-être parler de ta structure iFunUp.
Exactement.
Ce que tu proposes et comment est-ce que c'est accueilli en entreprise et quels sont les résultats que t'obtiens aussi par rapport à cela ?
Alors, j'ai donc fondé ma propre entreprise il y a 2 ans, donc, qui s'appelle iFunUp. Donc H-Y-P-H-E-N, plus loin up, U-P. En anglais, iFun, ça veut dire trait d'union, et j'ai choisi ce mot parce que c'est ce que je veux traduire et transmettre par mon action, c'est créer des ponts entre les gens pour que, hop, ils puissent grandir, s'épanouir, apprendre et s'apprendre mutuellement. Et j'ai choisi un nom anglais parce que je travaille aussi avec des boîtes internationales, je travaille en anglais, je travaille aussi en espagnol et en portugais. A posteriori, je me suis rendu compte que les Français ne savaient pas ce que ça voulait dire, mais ça me donne l'occasion de faire ma petite histoire, mon petit storytelling sur le nom iFunUp. Mais pendant un moment, je me suis posé la question si j'avais pas fait une bêtise en choisissant iFunUp. Donc iFunUp, c'est un cabinet de conseil spécialisé en diversité et inclusion qui offre 3 types de services. Premier type de service, c'est l'accompagnement stratégique. Donc en gros, j'accompagne les organisations qui ont envie de formaliser ou de refondre, de mettre à jour leur stratégie, leur politique diversité et inclusion, leur plan d'action, mettre en place un comité, des indicateurs à suivre, etc., etc. Donc on est plutôt sur la partie conseil. Ensuite, je propose de la sensibilisation. Et la sensibilisation, elle peut se faire soit sous format atelier, soit sous format conférence. Donc format atelier, c'est soit des ateliers sur mesure pour parler de plein de sujets. Donc ça peut être les biais et les stéréotypes, ça peut être le management inclusif, ça peut être en général la diversité et l'inclusion, c'est quoi ? À quoi ça sert ? Voilà. Et puis les conférences, en fait, ça va être les mêmes thématiques, mais sous un autre format qui est le format conférence. Et en plus de ça, je propose deux conférences plus perso, qui sont quand même intimement liées au sujet diversité et inclusion, mais qui sont des conférences témoignages. Donc le premier, c'est « L'ascension sociale n'est pas un long fleuve tranquille ». Je vous parlais au tout début du fait que je suis transfuge de classe. Et donc, c'est un sujet dont on parle assez peu et qui, moi, m'intéresse beaucoup. Donc ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième, c'est « PMA et carrière professionnelle ». Comment jongler entre les deux et comment accompagner les salariés. Donc moi-même, je suis en parcours de PMA et donc j'ai à la fois mon témoignage de femme en parcours de PMA et également des conseils aux managers et aux RH par rapport à ça. Donc ça, c'est la partie conférence. Et puis sur les ateliers, j'ai aussi ce qu'on appelle les fresques. Donc il y a la fresque de la diversité et je viens de créer la fresque du maintien dans l'emploi. Donc pour les personnes en situation de handicap. Et donc, la fresque n'est pas pour les personnes en situation de handicap, quand c'est le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Bon. Et la troisième chose que je propose, c'est des formations. Format présentiel, format distanciel, tout sur mesure. J'ai très peu de produits sur étagère, entre guillemets. Hein. C'est vraiment à chaque fois en fonction du contexte et de la demande. Et donc avec les mêmes sujets, sauf qu'on va plus loin et l'objectif, c'est l'acquisition de compétences. Donc si je fais un atelier de 2 heures sur le management inclusif, évidemment, on va pas aussi loin que si je fais une formation d'une journée sur le management inclusif. Voilà. Mais en tout cas, c'est les mêmes thématiques. Donc j'ai lancé ma boîte il y a 2 ans après 10 ans chez Bouygues Construction en tant que RH, où j'ai occupé des postes en recrutement, marque employeur, formation et diversité. J'ai été 4 ans responsable diversité de Bouygues Construction. C'est le poste qui m'a le plus plu et qui était le plus aligné, qui avait le plus de sens pour moi. Hein. Je l'ai déjà expliqué au tout début. Et au bout de 10 ans dans un grand groupe, j'ai eu envie de voler de mes propres ailes et j'avais aussi un besoin d'être moi-même. Et en fait, même si j'ai adoré mes 10 ans chez Bouygues et je suis encore très en lien avec Bouygues et c'est mes clients, etc., etc., il n'y a aucun souci. Bah en fait, quand on est salarié dans un grand groupe, et surtout quand on est RH dans un grand groupe, on est aussi porteur de la posture. Enfin, on attend une certaine posture de nous. Voilà. On représente l'entreprise, on représente ses valeurs, ses activités, etc. Et moi, j'avais l'impression parfois d'être un peu différente. En fait, on revient toujours au même sujet. Hein. Très souvent, on me disait « Ah, Claudia, toi, t'es très spontanée, t'es très naturelle, t'es authentique. » Mais on me le disait de façon très positive, hein, en me complimentant. Mais à force qu'on me dise ça, et qu'on pointe du doigt que moi, j'étais comme ci, comme ça, bah, ça voulait dire que les autres ne l'étaient pas. Enfin, ça m'a interrogée. Je me suis dit « Mais en fait, je peux pas être 100% moi-même, 100% spontanée, 100%... à partir dans tous les sens, dans les 1000 idées que j'ai à la seconde. » Et je pense que c'est ça qui me manquait. Donc c'est pour ça que j'ai lancé ma propre boîte. Et bah, c'est complètement en alignement avec ce que je porte aussi, puisque quand on parle d'inclusion, on est aussi vraiment sur inviter les entreprises et les organisations à inclure et à accepter et à cultiver ce qui fait que chaque personne est unique et singulière. Et c'est peut-être que ça va manquer, en fait, hein, tout simplement. Des exemples concrets d'intervention. J'ai eu plusieurs expériences ces 2 dernières années d'ateliers ou de conférences avec des gens qui viennent me voir à la fin en me disant « Ah ok, ça a fait tilt, je viens de comprendre un truc là ». Et notamment je pense à des ateliers que j'ai animés l'année dernière auprès d'une grande chaîne de magasins de bricolage. Et je suis allée dans plusieurs endroits de France sensibiliser des managers et des RH à ce que c'était que l'inclusion. D'accord ? Donc inclusion côté manager et inclusion côté RH, mais bon, le fond du message est quand même le même. Et il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir, je vous donne quelques exemples. Une des personnes m'a dit « Je viens de comprendre ce qu'était vraiment la diversité, alors même que ça fait des années qu'on en parle, grâce à ton intervention. » Donc j'étais très contente qu'il me dise ça. Il me dit « En fait, ça fait des années que notre boîte fait des efforts et fait des vrais progrès qu'on voit substantiel sur l'égalité entre les femmes et les hommes, sur l'inclusion de personnes de milieux sociaux différents, sur l'inclusion des personnes LGBT+, etc. Donc là-dessus, on est meilleur. Et donc, j'avais l'impression qu'on était plutôt mature et qu'on était pas mal. Mais avec ton intervention, je me rends compte que la diversité, c'est bien plus que ces quelques catégories sociodémographiques, puisque j'ai percuté que 95% des personnes de notre boîte étaient des extravertis. Et on a une petite poignée d'introvertis. Mais pourtant, être extraverti, c'est pas dans la fiche de poste, c'est pas une compétence obligatoire pour bien réussir, bien faire son travail. C'est juste que c'est quelque chose qui est tellement valorisé dans notre boîte depuis toujours, que maintenant ça vient sûrement influencer notre recrutement et nos systèmes de promotion, alors même qu'on a peut-être des gens introvertis qui sont très bien, des candidats introvertis qu'on ne prend jamais parce qu'il y a un truc qui nous a gênés, et en fait c'était ce sujet introverti. Donc ça c'est un truc qui m'a vraiment marqué, et je suis super contente parce que cette personne, je savais que dès le lendemain elle allait voir les candidatures différemment. Un autre exemple, c'est une personne qui est venue me voir, un manager qui est venu me voir, ou une manager, je crois que c'est une femme, qui est venue me voir et qui m'a dit « Je me suis rendu compte, après ton intervention, que ma façon de mener des réunions donnait pas une vraie place au débat, et donnait pas une égalité de parole et un poids égal à chaque personne autour de la table. J'avais l'impression que parce qu'on faisait un tour de table, et que tout le monde pouvait s'exprimer, bah c'est bon, je faisais le taf, je faisais le job. Et maintenant, après ton intervention, je me rends compte qu'il y a d'autres choses à faire, et notamment moi en tant que manager, dire « S'il vous plaît, dites-moi si j'ai tort, s'il vous plaît, challengez-moi, s'il vous plaît, dites-moi quand vous n'êtes pas d'accord avec moi, et je ne donnerai plus mon avis en premier. » Ça, c'est le genre d'exemple très concret qu'on évoque pendant les ateliers ou les formations que je donne, et je suis super contente de me dire, bah, ces gens-là, dès le lendemain, ils allaient changer leur comportement, quoi. Parce que c'est ça l'objectif de mes formations et de mes sensibilisations, c'est de mettre en place des changements de comportement pour le meilleur.
Chouette, merci pour ces partages, c'est riche aussi, ça donne vraiment des cas d'illustration qu'on peut voir, soit qu'on a déjà eu nous en tant que salarié, soit en tant que RH, soit en tant qu'intervenant dans des entreprises aussi, pour pouvoir sensibiliser et dire oui, c'est possible de sensibiliser vos équipes sur ces sujets-là, et concrètement ça peut changer la donne en termes de perception, et comme tu dis, dès le lendemain, quoi, parce que l'état d'esprit, le switch se fait très rapidement avec tes ateliers, tes animations.
Ouais, exactement. En fait, il y a dans mes animations, je viens mobiliser les émotions, je mets des éléments de surprise, il y a des cas pratiques très concrets. Donc déjà, ça contribue à la prise de conscience. Et des gens qui font « Ah, ok !» ou l'effet « Waouh !» ça, clairement, je l'ai. Donc c'est la première étape, prise de conscience qu'il y a peut-être des trucs à changer. Et ensuite, il y a des outils très concrets pour qu'ils repartent avec une boîte à outils et que ce soit pas juste « Bon, bah maintenant que vous avez pris conscience du truc, je vous laisse vous débrouiller, quoi. » Voilà, donc, je leur fournis.
Tu fournis des outils qui vont bien avec la boîte à outils.
Exactement.
Trop chouette. Est-ce qu'il y a, pour qu'on puisse passer aux questions habituelles du podcast, d'autres choses que tu as envie de partager qui te semblera importante
sur le sujet du management inclusif,
exactement,
tu veux dire?
Exactement, ouais.
C'est pas parce que c'est un sujet à la mode qu'il faut se dire que c'est passager et que c'est superficiel. C'est un sujet qui, en ce moment, est à la mode parce que, oui, voilà, il y a une prise de conscience ces dernières années des entreprises qu'il fallait travailler là-dessus. Mais en fait, ça fait déjà des années qu'on travaille dessus, notamment avec les formations management. Il y a déjà plein de choses qui sont liées à l'inclusion. Il n'y avait juste pas ce nom d'inclusion. Mais en tout cas, ce n'est pas un sujet passager, ce n'est pas un sujet superficiel. On est vraiment au cœur du réacteur. Si vous voulez avoir des équipes qui fonctionnent bien, des gens qui sont bien dans leur peau et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes et qui restent. On est hyper liés à des enjeux centraux de performance, de stratégie de l'entreprise. Et donc non, c'est pas juste un sujet à la mode. Voilà. Je pense que c'est ça que j'ai envie de passer comme message. Voilà.
C'est entendu en tout cas. C'est entendu. On va passer aux questions un peu plus habituelles du podcast. Alors, dans les classiques, j'ai « Qu'est-ce que ça signifie être aligné pour toi ?» Si ça signifie quelque chose, bien sûr.
En fait, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. C'est pouvoir être moi-même, pouvoir être authentique. Bien évidemment qu'en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve, on n'agit pas de la même manière. Hein. Avec sa famille, au travail, au supermarché, à un enterrement, que sais-je, il y a une posture qui est attendue de nous, qui est normale. Bon, ça. Mais pouvoir être quand même au plus proche de qui je suis et être 100% authentique. Et donc, vous l'aurez compris, pour moi, c'est être bavarde. Et c'est être spontané et parler de mes idées et rencontrer plein de gens. Voilà. Donc, j'ai besoin de pouvoir être comme ça et de m'exprimer comme ça pour être alignée.
Ok, et dans la continuité, une question qui peut peut-être en découler ou pas, tu me diras, un conseil qu'on t'a donné ou que tu donnerais pour être soi-même?
Un conseil que... Alors c'est un conseil que moi je donnerais, en toute humilité.
Bah, en toute humilité, allons-y.
C'est ne pas avoir honte de qui on est ou d'où on vient. C'est notamment quand on vient pas de milieux très privilégiés ou de parents, ce qu'on appelle CSP+, catégorie socio-professionnelle supérieure pour les personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire. On va se retrouver dans des contextes où on n'a pas la référence culturelle ou... on va nous parler de musique classique et alors que nous on n'a jamais écouté, on va nous parler d'un livre, d'un classique que nous on n'a jamais lu. Et puis on peut se sentir un peu en décalage, un peu honteux parce qu'on n'a pas cette référence là. Et puis on peut hocher la tête et sourire pour faire genre on a déjà entendu cette musique et lu ce livre alors qu'en fait c'est pas vrai du tout. Et puis on rentre à la maison tout penaud en se disant bah, je suis vraiment trop nulle de jamais avoir entendu cette musique ou jamais lu ce livre. Donc moi ce que je vous invite à faire, après c'est facile à dire et moi j'ai mis beaucoup d'années avant de pouvoir appliquer ça, c'est ne jamais avoir honte et ne jamais prétendre d'être qui on n'est pas, ne jamais avoir honte d'où on vient. Vous avez peut-être pas lu les livres de la Pléiade ou écouté tout, j'en sais rien, Schubert ou Mozart, mais vous avez plein d'autres références culturelles et qui sont pas moins bonnes parce que j'en sais rien, des gens ont décidé que c'était ça la culture légitime, blablabla. Donc assumez d'où vous venez, n'ayons de rien, voilà, c'est ça mon conseil.
Top, merci beaucoup. N'importe où, tous coachés, c'est aussi un podcast de réseau, puisque c'est vraiment aussi par ce biais-là que dire, les contacts que je peux avoir résonnent et se mettent en lien. Et qu'est-ce que ça signifie pour toi le réseau? Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est des choses que tu entretiens? Et si oui, comment tu les entretiens?
Quand j'ai préparé les réponses pour ce podcast, parce que oui, mesdames et messieurs, on prépare un peu en avance quand même, je me suis rendu compte que le mot réseau, je le détestais quand j'étais plus jeune, parce que pour moi, il était synonyme de piston. J'avais l'impression que tous mes camarades de classe, qui étaient plutôt donc avec des parents cadres, profs, profession intellectuelle supérieure, blablabla, avaient plein de réseaux et qu'ils allaient s'en servir pour avoir des super stages, pour avoir des super jobs, etc. Et que moi, j'avais pas de réseau et que du coup, c'était juste la traduction d'un privilège social et ça m'énervait. Voilà. Donc je me suis rendu compte que ce mot réseau, je le détestais et qu'aujourd'hui, je suis à fond dans le réseau. Donc je pense que, en fait, du coup, j'ai eu une réalisation, je me dis, merde, c'est juste que je suis passée de l'autre côté de la barrière en devenant moi-même CSP+, et que c'est peut-être un truc de CSP+, le réseau. Passons ces considérations philosophiques. Donc oui, le réseau, c'est quelque chose que j'entretiens absolument. Quand on lance sa propre activité, on a besoin d'être recommandé, on a besoin d'être visible pour avoir des clients. Hein. Donc pour moi, mon réseau, principalement, ça va être mes anciens collègues, parce que 10 ans chez Bouygues, on rencontre du monde. Ça va être mes clients, mes anciens clients, ça va être d'autres collègues qui font le même métier que moi, que je vois pas comme des concurrents, mais vraiment comme des personnes qui peuvent être complémentaires et qui le sont d'ailleurs. Donc voilà, c'est toutes ces personnes-là. Oui, je l'entretiens. Je l'entretiens parce que je fais partie d'un groupe d'entrepreneurs, femmes entrepreneurs, qui s'appelle Bouge ta boîte. Et c'est là qu'on s'était rencontrés. Et puis de temps en temps, je fais des after-work, soit avec d'autres entrepreneurs, soit plutôt dans le monde RH, puisque c'est dans le monde dans lequel j'évolue. En tout cas, c'est important de rencontrer de nouvelles personnes. Pour moi, je le fais toujours avec une ligne directrice qui est l'authenticité. La sincérité, aller sourire avec une coupe de champagne à des gens qui m'intéressent pas, non, pas trop. Par contre, aller sincèrement rencontrer des gens qui font plein de métiers différents et découvrir tout plein de métiers, c'est cool. Et de toute façon, on sait qu'on sera pas en contact avec les 50 personnes qu'on a croisées ce jour-là après. Et c'est pas bien grave, puisque de toute façon, on y va de façon sincère et transparente.
Est-ce qu'il y a un livre, un ouvrage, un podcast que tu nous conseillerais, soit qui t'a marqué, soit un ouvrage du moment?
Il y a deux ouvrages. Alors, le premier, c'est un podcast qui est devenu un livre. Donc, comme ça fait okay. Double réponse. Super. Qui est Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon, que tu connais peut-être. Ouais. Donc, à la base, c'est un podcast. Donc, là, elle en a fait un livre. Donc, en fonction du support que vous préférez, il y a les deux. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle s'intéresse au sujet des masculinités. Souvent, quand on parle de féminisme, de lutte contre le sexisme, on prend vraiment sous l'angle femme, comme groupe social qui a été très longtemps et qui est encore en partie opprimé, violenté, invisibilisé, etc., etc. Et c'est hyper important de le voir sous cet angle-là. Mais je trouve ça hyper intéressant qu'elle aille aussi regarder comment la masculinité s'est construite, et comment ça contribue aujourd'hui aux dynamiques et aux inégalités de genre. Donc voilà, ça c'est hyper chouette. Et il y a un autre livre sur un tout autre sujet, qui est sur le sujet des transfuges de classe. Je me rends compte que j'en ai parlé au moins 3 fois pendant le podcast, donc il faudra peut-être qu'on en fasse un jour.
Bah, c'était une des questions que j'avais te poser, les transfuges de classe. On pourra prendre rendez-vous sur un prochain podcast.
Et donc le livre, c'est « Et tes parents, ils font quoi ?» de Adrien Nazelli. Et donc c'est un journaliste qui est lui-même transfuge de classe, qui a interviewé tout plein de gens de son entourage qui sont plutôt dans le monde des médias, des arts et de la politique. et leurs parents. Et donc hyper intéressant de voir les relations dans les familles, de voir les relations aux études, etc. D'ailleurs, j'ai le projet, donc si vous écoutez ce podcast et que ça vous concerne, n'hésitez pas à me contacter. J'aimerais interviewer peut-être une douzaine de transfuges de classe, mais qui sont plutôt dans le monde de l'entreprise privée, pour faire un peu le miroir de ce livre-là, que j'ai adoré, pour voir, voilà, quand on est salarié d'une entreprise, notamment cadre supérieur, et qu'on est soi-même enfant d'ouvrier, employé, qu'est-ce que ça implique, comment ça a joué dans notre parcours, comment ça influe encore aujourd'hui dans notre relation au travail, dans notre relation avec les collègues. Voilà, c'est quelque chose que j'ai en projet, donc n'hésitez pas à me contacter.
Le message sera passé. Du coup, ça va faire le lien aussi sur comment te trouver sur les réseaux. Donc, je vais mettre ta page internet, ton LinkedIn.
Oui, c'est les deux façons de me trouver. Donc, hyphen-up.fr ou LinkedIn, Claudia Dacruz. Cruz comme Pénélope avec une particule devant. Donc, D-A plus loin, C-R-U-Z. En général, quand je dis ça, les gens s'en souviennent.
Bah oui, carrément, voilà. En tout cas, ce sera bien mis sur le lien. Et puis, il y a déjà une partie de la dernière question à laquelle tu as répondu tout à l'heure. Pourquoi pas un futur podcast sur le transfuge?
Bah, pourquoi pas
place.
Pourquoi pas, avec plaisir.
Carrément. Et est-ce que par rapport à tout ce qu'on s'est dit, tu verrais d'autres sujets, d'autres thèmes avec toi ou d'autres personnes qui pourraient...
Bah, non, mais il y a plein de choses. On pourrait parler des biais inconscients et des stéréotypes. Ça peut être un super sujet de podcast. On en parle beaucoup, mais on pourrait se mettre le challenge de synthétiser le truc en quelques minutes. Ça peut être intéressant.
Ouais.
Parce que tout le monde est concerné. Qu'on soit manager, pas manager, RH, pas RH, les biais et les stéréotypes, ça influence nos relations au quotidien.
Ouais.
Donc ça peut être pas mal.
Je pense que ça pourrait être bien de le faire en complément. J'ai fait un épisode avec Mélanie sur WeSuggest. Bref, en tout cas avec Mélanie, qui du coup parlait des stéréotypes, des biais dans le recrutement. C'était pas stéréotype, c'était vraiment les biais dans le recrutement.
Okay.
Mais je trouve que ça serait hyper intéressant de peut-être revenir sur la construction des stéréotypes et comment ça peut, en management ou dans une gestion d'équipe, avoir un impact fort et peut-être illustrer aussi avec des cas concrets que toi tu côtoies régulièrement chez tes clients.
Bah en tout cas, ça fait partie des fondamentaux que j'évoque quasiment systématiquement en atelier et en formation.
Ouais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Bon, en tout cas, c'est noté, ça nous fait au moins 2 sujets en plus.
Voilà, on va se revoir.
Trop bien, au cas où on a un doute. Trop chouette. En tout cas, merci beaucoup pour ta
disponibilité,
ton authenticité et puis du coup ce partage sujet d'actualité. Et puis je dis à très bientôt aux auditeurs et auditrices et n'hésitez pas à aller consulter le profil de Claudia et à la rajouter sur vos réseaux.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requiliance.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures.